Bonsoir. Notre émission de ce jour se propose de présenter 6000 ans de l'histoire de l'Algérie, dont 5850 années sans la présence française. C'est dire si les Algériens se seraient bien passés de la colonisation française, en l'absence de laquelle ils avaient vécu si longtemps sans qu'elle leur manque. On peut penser que si on avait présenté à tous les jeunes appelés qu'on a envoyés là-bas la situation sous cet angle, leur motivation s'en serait encore plus ressentie à la baisse. Mais voilà, quand on utilise une jeunesse à qui on prend soin de ne pas donner de culture historique et qu'on lui présente les choses en disant qu'elle doit servir son pays sans se poser de questions, on arrive à la duper, dans une duperie qui n'est pas perdue pour tout le monde, mais qui la marquera d'une souffrance et d'une atteinte à sa dignité humaine pour le reste de sa vie. L'Algérie est un pays qui, plus de 6000 ans avant notre époque, était déjà occupé par des populations berbères qui se désignaient elles-mêmes sous le vocable Amazighen, c'est-à-dire hommes libres. Puis ce furent les époques des grandes invasions, phéniciens et carthaginois de 1100 à 147 avant Jésus-Christ, romains de 146 avant Jésus-Christ à 432 après, Vandales de 433 à 533, Byzantins de 533 à 633, Arabes de 755 à 1516, Juifs espagnols fuyant l'Inquisition arrivant au XVe siècle, Turcs de 1516 à 1830, et pour couronner le tout, les Français en 1830. C'est dire si leur légitimité historique sur le territoire est incontestable. Les Berbères résistèrent très bien et très fortement à toutes ces invasions, et c'est par le biais de l'islam et de l'islamisation que les Arabes finirent par supplanter les Berbères sur leurs terres. Et ce sont donc les Turcs qui tenaient le pays quand les Français entreprennent de l'envahir et de se l'approprier. Ce n'est pas sur un coup de balai à la tête du consul donné de surcroît 3 ans avant, en 1827, que, comme on veut nous le faire croire, fut décidée l'invasion. Non, c'est sur un coup de tête né d'un différend commercial, car les échanges commerciaux de céréales étaient alors importants. Et il y avait un refus de régler une importante quantité de blé livrée au directoire par tous ses successeurs au pouvoir. Or donc, le prince Polignac se dit qu'il y avait là un judicieux prétexte pour envahir ce pays qui présentait un indéniable intérêt pour les débouchés naissants du commerce et de l'industrie français. Et le 16 mai 1830, 500 navires quittent Toulon. Finalement, c'est le 14 juin 1830 à 1 h du matin que l'armée de De Bourmont débarque près de Sidi Ferouche. Les Algériens ripostent et un combat s'engage où les Algériens mettent 30 à 50 000 hommes au combat. Cela n'empêchera pas les colonisateurs de progresser pour aboutir à la reddition d'Alger le 5 juillet 1830. Les occupants vont dès lors se diviser sur la question de l'occupation partielle ou totale du pays et les Français, s'ils tiennent quelques villes de la côte, sont violemment repoussés à l'intérieur par les troupes organisées et très vite sous la direction du jeune émir Abdelkader. Il y a alors 3 millions de musulmans dans le pays. Mais pour les militaires français qui débarquent, les choses sont très simples. Il y a les indigènes autochtones et les colons envahisseurs, les primitifs et les civilisés. Pendant 10 ans, jusqu'en 1840, les militaires français se confrontent au jeune Abdelkader, qui le voit entre affrontements et traités négociés, et réussit à infliger des défaites aux Français, où ils perdent une fois 500 hommes, une fois 1000. Alors, le roi Louis-Philippe envoie Bugeaud le 15 avril 1837, qui signera le 30 mai le traité dit de Latafna. Traité jugé trop défavorable par le roi et ses sbires qui reprennent la guerre. Et les effectifs militaires passèrent de 60 000 hommes en 1840 à 107 000 en 1847. Les exactions seront nombreuses entre Razia et Enfumade, dans les grottes par Cavaignac et aussi Pélissier. Le 23 décembre 1847, Abdelkader se rend et est ramené prisonnier en région parisienne. En 1852, le prince président, futur Napoléon III, le fait libérer et fait la promotion d'une politique de coopération avec des discours dans le style « Traitez les Arabes au milieu desquels vous devez vivre comme des compatriotes ». 1871 va balayer toutes ces belles intentions, comme la Commune, et ce sont les colons qui vont décider et gouverner. L'Algérie, c'est dès lors 3 départements français où les musulmans n'auront aucun poids politique. Et ce sera l'assujettissement absolu et complet des liens et de la force de travail de la population aux besoins et intérêts de la colonisation. L'Algérie, avant l'arrivée des Européens, ignorait la propriété absolue des terres. À la place existait une hiérarchie compliquée de droits d'usage, 3 sortes de terres. Les melks, alloués à des particuliers, mais avec un droit ultime du souverain. Les beyliks, les meilleurs, cultivés sous l'administration du bey. Et les terres confisquées aux tribus rebelles. Et les autres terres, inaliénables, appartenaient à la tribu tout entière en indivision. L'État français saisit évidemment les terres beyliks, les meilleures, les partage et les distribue aux colons français. La spoliation est alors présentée comme une grande œuvre de progrès et est en fait aussi une destruction de la structure pyramidale des droits qui avait assuré jusque-là la subsistance des petits cultivateurs. Pendant qu'on y est, on saisit toutes les terres des fondations religieuses, à bout, ce qui déstructure aussi les droits d'usage associés. Les lois françaises du 26 juillet 1873 et du 22 avril 1887 permettent aux Européens de porter leur possession à 400 000 hectares. Et ça va continuer entre 1871 et 1919, et ce seront 870 000 hectares que les colons s'accaparent. Les colons du département d'Alger, dans cette période, passent de 100 000 à 400 000 hectares. En 1919, les musulmans avaient perdu 7,5 millions d'hectares volés par l'État, les particuliers et les grandes sociétés capitalistes. Tout cela s'était accompagné du démembrement des grandes tribus qui ne pourront plus assurer leur rôle social d'entraide et de solidarité face aux famines. C'est alors le règne des affameurs et des usuriers qui s'installent.
Vimtawana.
Dans ces conditions, des flux migratoires importants continuent pour la métropole en mal de main-d'œuvre, au point que les colons en viennent à s'inquiéter du manque de main-d'œuvre pour leur service en Algérie. Au moment de la guerre de 1914, ce seront 120 000 Algériens réquisitionnés pour remplacer en métropole la main-d'œuvre partie à la guerre, et 173 000 Algériens, dont 80 700 engagés, qui sont envoyés sur les champs de bataille. 25 000 musulmans y meurent. Après la guerre, les flux migratoires vers la métropole continuent. À cette époque des années 20, naît le mouvement des théologiens musulmans réformistes, les oulémas, dont le slogan de l'un d'eux, Abdelhamid Ben Badis, est « L'arabe est ma langue, l'Algérie est mon pays, l'islam est ma religion », slogan qui va être largement adopté par les nationalistes algériens. En 1922, le PCF est très critiqué au congrès de la 4e internationale communiste pour son orientation esclavagiste dans les sections algériennes. En 1926, sous l'influence du PCF, Messali Hadj crée le mouvement l'Étoile nord-africaine. Il se dote d'un programme très progressiste et égalitariste où on retrouve des revendications comme indépendance totale de l'Algérie, retrait total des troupes d'occupation, suffrage universel à tous les degrés, langue arabe comme langue officielle, liberté de presse, d'association, de réunion, droits politiques et syndicaux, application des lois sociales et ouvrières, instruction obligatoire en langue arabe, etc., etc.
أنت دار القلوب، غرامك طار لنا.
En février 1927, Messe Alliage est à la tribune de la Ligue contre l'oppression coloniale. Il déclare « Le peuple algérien est sous la domination française depuis un siècle et n'a plus rien à attendre de la bonne volonté de l'impérialisme français pour améliorer son sort. » Et là, en 1926-27, on était encore loin de la Toussaint 54. Au même moment, pour la SFIO, la politique coloniale socialiste, c'est l'assimilation. En novembre 1929, l'Étoile nord-africaine revendique 3500 militants en 15 sections, dont 8 à Paris. Le même mois, accusée de propagande subversive contre la France, elle est dissoute. 1931, c'est l'exposition coloniale française, 33 millions de visiteurs. En 1933, l'Étoile nord-africaine se reconstitue et continue une action clandestine sous la répression colonialiste. En 1935, les aspirations nationalistes algériennes sont représentées dans 4 courants, les oulémas, le mouvement jeune algérien, le courant communiste et le mouvement nationaliste radical représenté par l'Étoile nord-africaine. Jusqu'à 1936, aucun musulman ne vote ni n'est représenté à la Chambre des députés. Et le conscrit algérien fait 24 mois au lieu de 10 pour le métropolitain, etc., etc. Le 12 juin 1936, la grève générale en Algérie est décidée par 6000 ouvriers. À la tête du gouvernement, Léon Blum veut faire quelque chose. Et c'est le projet Blum-Violette qui vise entre autres à accorder l'égalité politique à une faible partie de la population algérienne pour l'étendre ensuite au plus grand nombre, disent-ils. 20 000 cadres et intellectuels sont concernés, mais pas un mot sur l'indépendance. Ce projet sera présenté le 30 décembre 1936 et il sera définitivement rejeté par le Sénat en 1937. 1936, c'est aussi l'année où des centaines d'Oranais vont aller combattre dans les brigades internationales en Espagne. Mais Messaliach, quant à lui, proclame son radicalisme en déclarant devant un congrès musulman « Cette terre est à nous, nous la vendrons à personne ». Le 29 janvier 1937, l'Étoile nord-africaine est à nouveau dissoute, cette fois par le Front populaire. est le 11 mars 1937, mais Alliadj dépose les statuts d'un nouveau parti, le Parti du peuple algérien, PPA, avec ses trois mots d'ordre, suffrage universel, parlement algérien, émancipation. Et le 23 décembre 1937, Maurice Thorez déclare à haute voix « L'indépendance n'est plus à l'ordre du jour ». Un visionnaire, le beau Maurice. Après le rejet du projet Blum-Violette en 1938, Ferhat Abbas crée un nouveau parti réformiste franco-musulman algérien, l'Union populaire algérienne.
يا ناس ريتو شي ما ريت اليوم جاني حبيبي هو هو مشى بسلامة هو بسلامة ها وانا على الله نصيبي الحب ما اعطاني فترة يا ناس ما اعطاني فترة والصباح يزداد كل ساعة كترة ريحة زداد ساعة كترة اللي يستوطن الضمير تخداه مركاح يوم لمسيت ست العذراء يوم لمسيت ست العذراء من كاف طحت هذا شهوة استفتاح وشي صعيب الله يستور الفضاح روحي تحاسبك يا عذراء روحي تحاسبك يا عذراء إن كان مت ما نسمح شي وإن عشت لا أسبود الملقى نفتش عليك وين تمشي نفتش عليك درب وزنقة للعاشقين بيك انعاشي نوري نظامي لها للرب تلقى
Arrive mai 40 et la débâcle. Le peuple algérien est stupéfait. Les Européens d'Algérie sont angoissés. L'armistice va les rassurer un peu car l'Empire français y est sauvegardé. Et puis, les premières mesures de Vichy sont séduisantes. Elles abrogent la législation sociale et celle du syndicalisme pour les Algériens musulmans. Cette révolution nationale est décidément plaisante. Elle est si plaisante que Ferhat Abbas tentera le coup du rapprochement. Mais la belle révolution nationale va tout de même compliquer un peu les choses quand le 7 octobre, le ministre de l'Intérieur Perrouton abolit le décret Crémieux, ce qui va ipso facto retirer leur nationalité française aux Juifs d'Algérie. Et le 19 décembre 1940, il n'y a plus un seul Juif dans l'enseignement en Algérie. Mais Alliage, qui refuse de collaborer avec le régime, est condamné le 17 mars 1941 à 16 ans de travaux forcés. Ceci dit, certains se disent, aussi naïfs que calculateurs, que si on pouvait utiliser les Allemands pour se débarrasser des Français, ce serait peut-être un bon choix. Et voilà comment certains dirigeants prendront des contacts avec les nazis et enverront même des jeunes Algériens combattre à leur côté. Ainsi, le mouvement Carnat a cherché à obtenir des armes des nazis. Mais dans le pays, l'évolution des esprits est rapide et le général Weygand lui-même observera en juin 1941 que « la population musulmane est indisciplinée, impolie, parfois insolente ». Prémisse de la situation révolutionnaire à venir. Arrive le 8 novembre 1942 et le débarquement des Américains. Les Algériens ne vont pas sans se rendre compte que se concrétise là la première grande défaite de l'armée d'occupation française et au milieu des luttes d'influence entre De Gaulle et Giraud, le décret Crémieux est tout de même remis en vigueur le 26 octobre 1943. Et bon nombre de Français européens d'Afrique du Nord et autant de musulmans non citoyens seront enrôlés dans les troupes gaullistes. De Gaulle a créé le CFLN, Comité français de libération nationale, gouvernement de la France non occupée, qui mettra en place un certain nombre de mesures propres à satisfaire quelques-unes des revendications des nationalistes algériens, comme par exemple son ordonnance du 7 mars 1944, qui entre autres ouvre aux musulmans l'accès à tous les emplois, ce qui fera déjà dire à certains pieds noirs qu'il pratiquait là une politique d'abandon. Ça venait de loin. Le 26 mai 1943, paraît un manifeste à l'initiative de Ferhat Abbas demandant un nouveau statut pour l'Algérie. Mais Alliage lui suggéra un additif adopté le 10 juin 1943. À la fin des hostilités, l'Algérie sera érigée en État algérien, doté d'une constitution propre qui sera élaborée par une assemblée algérienne constituante, élue au suffrage universel par tous les habitants de l'Algérie. Le gouvernement de De Gaulle à Alger rejeta cet additif aussitôt, ce qui fera dire à Messaliach, s'adressant à Ferhat Abbas, « Je ne fais pas du tout confiance à la France, la France ne te donnera rien, elle ne cédera qu'à la force et ne donnera que ce qu'on lui arrachera. » Prémonitoire, n'est-ce pas? Thank you.
deriniz Midyugi yelli deriniz Yufey mi girdi de kurfe 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 يحزن والناوي كتي سوان يعشي السدري والنيس يلح ورقني بردان وردي بان كديس وقيس يحزن والناوي كتي سوان يعشي السدري والنيس يلح ورقني وردي بن كديس وقيس ولاد وين ابتدي فكان ولاد وين ابتدي فكان ينادي دلو واليس ينادي دلو واليس
Le 14 mars 1944 naît cette organisation, les Amis du Manifeste de la Liberté, AML, que le PPA soutiendra. Et le 2 avril 1945, le Congrès des Amis du Manifeste de la Liberté se prononce contre l'indépendance sous l'égide de la France et dans le cadre du fédéralisme français, et décide de réserver au futur État algérien la faculté de s'intégrer au système qui lui plairait. C'est clair et net, et on est en avril 1945. Et la revendication politique de l'indépendance est formulée là, sans ambiguïté, bien avant la guerre. L'association a 100 000 adhérents et 257 sections locales. Et le 23 avril 1945, 21 jours après le congrès, Messali Hadj est déporté à Brazzaville. Arrive le 8 mai 1945 et les événements de Sétif Guelma, auxquels nous réserverons une autre émission entière. Pour faire court, nous dirons simplement que, ce jour-là, beaucoup de musulmans ont naïvement pensé qu'ils pouvaient exprimer leur joie d'une autonomie promise qui allait leur advenir, cette guerre étant maintenant terminée. Que les pieds noirs radicaux, sentant cette aspiration monter dans la population, ont voulu l'étouffer sous la répression, et qu'un massacre violent leur a semblé le bon moyen de terroriser tous ceux qui voulaient s'émanciper. 15 000 à 45 000 morts en est le bilan, jamais chiffré, ni chiffrable avec précision. S'il en était besoin, les musulmans ont compris là que seule la lutte organisée leur permettra le moment venu d'aboutir à l'indépendance.
عسيك
في الدجن عسيك
حزين هالصدود اللي يهوى ساكني على قلبي يحضر أكيف نعمل يا ناسي
نعمل يا ناسي
الهوار الشريح منو تقيل شلة ما نصبر علاش يا غربة راسي قلي عتي عظيمة من هرس العظام بالعطف شطار أقوم تهدي لي كاسي بين البها والحسكة والقطيع والطار بالعطر يا أهل السين الفاسي يا
أهل السين الفاسي
أصفوا بشمعكم وبايعوا بسلطان المشوار آه يا مالي آه يا مالي على الله يا مناتي لا نشولا مكتوبا إذا يغيب على عيني من هويت في قلبي يحضر أفي عضايا وسواسي
عضايا وسواسي
إذا يغيب علي ساعة نقول هذا غير أغضار أي ترى حزني الضفار بغزلي من هويت والشر يضمر أبعد هولي وهواسي
هولي وهواسي
نال قصديك بالغرضي معاه والدفي نقار أي اللي قلبه قاسي قالت نوم العشق في حالة الهوى سلم وعضر أي أهل السين الفاسي
أهل السين الفاسي
أصفوا مجمعكم وبايعوا بسلطان المشوار آه يا مالي آه يا مالي على الله يا مناتي لله عافينا
Après la guerre, on va voir le PPA se reconstituer sous l'intitulé d'un nouveau parti, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, MTLD. Un nouveau statut pour l'Algérie est par ailleurs mis en place le 20 septembre 1947, qui n'ouvre pas de perspective d'évolution des départements français, avec des spécificités bien particulières, et qui sauvegarde les intérêts des Européens d'abord. Politiquement, une nouvelle assemblée algérienne est créée. Il y a deux collèges avec 60 délégués chacun. Le premier comprend 464 000 citoyens français et 58 musulmans. Le second, 1 500 000 musulmans recensés. Les municipales de 1947 sont un triomphe pour les candidats nationalistes. On change alors le gouverneur. On trafique les élections et en 1948, dans le second collège sur les 60 sièges, 41 sont attribués à des candidats administratifs, 9 au MTLD et 8 au parti de Ferratabaz. C'est le sentiment de révolte chez les nationalistes modérés. le MTLD va connaître une crise. Le MTLD va connaître une crise dans les années 1948-1949 autour de la question berbère confrontée à l'arabo-islamique et de surcroît à des tensions entre Algérie en France et Algérie en Algérie. Une autre crise va suivre à fin 1952. À l'initiative de Messaliaj, qui s'appuyait majoritairement sur les Algériens de France et qui va se trouver confronté à une opposition politique interne qu'il qualifiait de réformiste, les centralistes. Et c'est à l'occasion d'une manifestation, le 14 juillet 1953 à Paris, organisée par le MTLD et qui engendra 6 morts et 44 blessés, que la rupture s'opéra par une scission un an plus tard, le 13 juillet 1954, et de cette scission émergera ce qui deviendra le FLN d'un côté et les Messalistes de l'autre, les deux organisations s'affrontant alors radicalement avec des assassinats de part et d'autre. En mars 1954 est créé autour du projet de déclenchement de l'action immédiate le CRUA, Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action, qui va donner naissance au Front de libération nationale, le FLN, qui lancera le mot d'ordre d'insurrection le 1er novembre 1954. Plus de 7 ans après, en 1962, l'Algérie sera indépendante.
Thank you.
Ainsi se termine cette émission qui se proposait de montrer l'ampleur de la civilisation et de l'histoire politique algérienne, ceci montrant bien que la lutte de libération engagée en novembre 1954 n'était pas le fait de quelques rebelles ou hors-la-loi, mais l'aboutissement d'un long processus politique et social dans la vie algérienne. Cette émission, consacrée à retracer très sommairement quasiment 6000 ans de l'histoire d'Algérie, a été réalisée essentiellement à partir d'éléments d'information provenant de l'ouvrage de Benjamin Stora, Histoire de l'Algérie coloniale, 1830-1954. Vous avez pu entendre un certain nombre d'illustrations musicales de musique algérienne, au début du programme des chants berbères traditionnels interprétés par Tao Samrouche, puis un ensemble à la fois de chants révolutionnaires, comme l'hymne du FTLD en l'honneur de Messali Hadj, écrit le 17 novembre 1936, et l'hymne algérien, et aussi de chants traditionnels, morceaux extraits d'enregistrements réalisés au Festival des Arts Populaires d'Alger dans les années 1970. Puisse cette émission contribuer à éclaircir la conscience de nos auditeurs sur la réalité historique d'un pays qui, de toute éternité, n'avait pas pour destin de devenir français.
يا جنود بلادي قلبي ليكم لو نصيب نطير ليكم بالجنحان صدري على العديان شادي غطيكم ويكون لكم سور ما بين النيران ربي راه يشوف وهو يكفيكم بالنصر المبين على كيد العديان على كيد العطيان
Thank you. Thank you.